C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes Les Boulons, l'émission des boulonnés, l'émission 109. Je suis en compagnie de Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Luc.
Nous allons présenter à deux l'émission. Alors, autour de la table, nous avons Norine qui vient d'arriver, qui est nouvelle chroniqueuse chez Les Boulons. Nous avons Virginie, Julien, Lucas, Jean-Claude, Michel et Cédric à la technique.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Bonjour.
Sans plus attendre, nous allons tout de suite vous donner le sommaire de l'émission.
Oui, donc bonjour à tous. On va d'abord commencer l'émission par Jean-Claude et Norine, qui vont nous parler de l'USBCO. Ensuite, on écoutera Julien sur un historique, une chronique sur l'historique du cours de l'or. S'en poursuivra un interview à propos du Téléthon. Ensuite, il y aura une pause musicale qui sera un de mes morceaux. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je suis bien content de le diffuser. L'interview reprendra. Ensuite, nous écouterons Lucas qui va nous parler des animaux en danger, en particulier le lion. On fera une pause musicale de Powo, Le lion est mort ce soir. Ensuite, Virginie nous parlera de fibromyalgie, une maladie peu connue mais qui arrive relativement fréquemment. Ensuite, Michel nous parlera de Jimmy Gressier et nous terminerons la chronique par des infos diverses sur d'événements de la région. Et on terminera par un morceau de musique, J'entends siffler le train de Richard Anthony.
Parfait. Nous allons tout de suite donner la parole à Norine et Jean-Claude pour l'USBCO.
Oui, donc tu vas nous parler de l'USBCO, c'est ça ?
Oui, bonjour Norine.
Bonjour. Ça a lieu où ? C'est dans quel lieu ?
Au Stade de la Libération, 15 247 places, construction 1952.
D'accord. Et le président et l'entraîneur sont ?
Vincent Boutillier.
Et l'entraîneur ?
Fabien Dagneau.
D'accord. Ils jouent en quelle division ?
En Ligue 2 BKT.
D'accord. Leur position actuelle ?
Ils sont 16e, 11 points, 3 gagnés, 2 nuls, 8 perdus.
D'accord. Et donc l'équipe, elle se constitue comment ?
Il y a le gardien, Uriev, Koné. Les défenseurs, Zohoré, Rayo,
oui.
El Farissi, un but, Boyer, un but, Buten, Pinot, deux buts, Thiam, Duflo, deux passes décisives, Silada, Gourville, Kouassi. Les milieux, Boiteau, deux passes décisives, Binet, Touré, Plâtré, un but, deux passes décisives, Fattar, un but, une passe décisive, Boula, un but, Martin, El Farissi, un but. Attaquant, Koné, Fatou, trois buts, une passe décisive, Capuano, un but.
D'accord, ça marche. Et donc, est-ce qu'elle a déjà accédé en Ligue 1, justement ?
Alors, le 29 mai 2009, Boulogne décroche sa première accession en Ligue 1 en battant l'Amiens SC. Boulogne ne reste qu'une saison en Ligue 1.
D'accord, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ouais, alors, ils viennent de monter en Ligue 2, hein, c'est ça ?
Ouais, ils ont monté, ouais.
C'est tout récent. Et il n'y avait pas eu un... Il s'est passé quoi, là, pour la montée ?
Ils étaient barragistes,
voilà,
et puis
c'est ça.
Ils ont raté le barrage contre Clermont,
ouais.
Et puis, mais ils ont été repêchés parce que Ajaccio, ils sont descendus en National.
D'accord, d'accord.
Oui, je voudrais ajouter que l'entraîneur adjoint de l'USBCO, c'est Anthony Lecointe, un ancien joueur de Boulogne qui a joué en Ligue 1 une saison du temps de leur saison en Ligue 1
en 2009.
2010-2011.
Ouais, c'est ça. Il parlait de 2009, je ne sais pas.
On voit que tout de suite, Michel réagit. Hein. Là,
ouais, ouais, ouais.
Là, l'USBCO, ça coule dans ses veines. C'est pas
bien
possible
sûr.
Autrement.
Michel, il va voir les matchs.
Il va voir les matchs, il est abonné, je pense. Hein. C'est ça, Michel ?
Pardon ?
Vous êtes abonné
Oui, je suis abonné. Oui. Oui, oui. Je suis abonné cette année. J'ai eu l'abonnement à un prix différent de concurrence, puisque au début, ils étaient programmés pour jouer en national, et puis on s'est abonné tout de suite et on a payé moitié prix. C'était pas négligeable.
Ouais, c'est une bonne affaire cette année en fait. Hein. Et vous êtes aussi passionné par l'USBCO, c'est un de vos clubs préférés, Jean-Claude ?
Oui, je suis sur RMC les matchs.
D'accord.
Et puis je suis beaucoup sur RMC.
D'accord. Et Norine, cet engouement pour l'USBCO, ça vous vient de où ?
Moi, je ne connais pas vraiment l'USBCO, je n'écoute pas vraiment tout ce qui se passe, les matchs, etc. Mais je connais un peu le club du fait que ça fait quand même partie de ma ville. Quoi.
D'accord, ok. Donc vous y intéressez.
C'est oui, pour ça que vous avez posé des questions à Jean-Claude.
Oui, c'est ça.
Ouais. D'accord.
Okay. On essaiera d'avoir un coup Fabien Dagneau, hein, tant qu'à faire.
Ah, ce serait bien, oui, ce serait
on
super.
On a un petit peu nos...
Ah, Michel, qu'est-ce que vous en pensez ? Fabien si Dagneau, ce serait bien d'avoir.
Fabien Dagneau autour de la table,
ouais, ouais.
Au studio. Bon,
ouais.
on va faire ce qu'il faut.
Ça marche.
Donc, on va enchaîner avec la chronique de Julien. Bonjour, Julien.
Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, comme tu disais, c'est une chronique sur l'historique du cours de l'or. Et je vais commencer tout de suite avec l'étalon or qui a duré de 1879 à 1934. L'étalon or, c'est un régime de change fixe où chaque pays peut convertir sa devise en or. Passé ça, en 1934, on peut échanger son or à $35 l'once suite à une loi des États-Unis appelée The Gold Reserve Act. C'est une loi qui permet au président des États-Unis de définir le prix de l'or par décret. Cela va durer jusqu'en 1944, et ensuite on entre dans la période des accords de Bretton Woods. C'est une période durant laquelle seul le dollar est convertible en or. Elle va durer jusqu'en 1971, et c'est à partir de cette date que le prix de l'or est libre. Donc c'est plutôt les investisseurs qui
achètent.
Qui achètent, qui vendent, enfin, ouais. C'est l'offre et la demande. Quoi.
Ouais.
Il passe d'ailleurs de $35 à $850 de 1971 à 1980 avec l'inflation, les conflits internationaux, la guerre froide et les chocs pétroliers. En 1990, l'once d'or descend à $400 et même à $280 au début des années 2000. Mais il va remonter ensuite à cause des crises économiques, financières et sanitaires. Donc la crise des subprimes, la dette européenne, etc. En 2008, l'once vaut donc $900 jusqu'en 2018, avec toutefois quelques pics à $1900 en 2011 et 2012. En 2018, le cours remonte à $1300 USD et le Covid le fera monter à son tour à $1700 USD en avril 2020. Juillet 2020, la barre des $2000 est franchie et depuis, ce sont les différentes guerres dans le monde qui l'ont fait remonter. L'or vaut aujourd'hui $3600 l'once. Alors, conclusion, ceux qui ont acheté de l'or début des années 2000 à $280 l'once ont fait x13 et sont aujourd'hui riches. Bon, d'accord, c'est en dollars constants et non en dollars courants, mais quand même, l'or a certainement gagné en pouvoir d'achat. Voilà.
Merci Julien pour ce cours de l'or. Nous allons maintenant interviewer Monsieur Michael qui va nous parler du Téléthon. Bonjour Michael.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter avec brièvement ce que c'est que le Téléthon ?
Alors bon, ben, je suis donc Michael, coordinateur dans le Pas-de-Calais, sur le secteur 62W, donc 62 Ouest, qui regroupe un peu plus de 150 communes. Notre département est décomposé en trois coordinations, donc, parce qu'on a un département très actif pour le Téléthon.
D'accord. Eh bien.
Oui. Et donc, pour résumer un peu, qu'est-ce que c'est que le Téléthon ? Tout le monde le connaît par sa médiatisation nationale. Donc voilà, le Téléthon est un événement annuel hyper important qui intervient pour l'aide aux malades qui sont atteints de myopathies, de diverses myopathies ou de maladies rares, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 5000 maladies qui existent et qui ne sont pas traitées. Donc, en fait, l'activité Téléthon et l'organisation du Téléthon permet de récolter des fonds afin d'aider la recherche pour essayer de résoudre au mieux et de trouver des solutions à ces maladies.
Ok. Alors, nous avons nos chroniqueurs. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question ? Qui veut démarrer ?
Bonjour, bien.
Allez-y, Michel.
Combien de bénévoles disposez-vous à peu près dans le secteur de Boulogne pour encadrer le Téléthon ?
Alors, pour encadrer le Téléthon, donc, comme je vous l'expliquais, on a une coordination qui fonctionne. On est aujourd'hui, la coordination est composée de 6 personnes. 6 personnes oui. qui sont réparties sur le secteur de Marquise, une autre sur le secteur de Berck, moi qui s'occupe un peu de la région boulonnaise. On a d'autres aussi, d'autres collègues et amis qui s'occupent du secteur de Samé, de Dèvres, etc. Donc vous voyez, on s'est répartis géographiquement pour être le plus présent auprès de tous nos organisateurs, parce que c'est quand même important que l'AFM Téléthon soit présente auprès des organisateurs, puisqu'ils y passent suffisamment de temps pour nous permettre en fait, de récolter des fonds. Donc on essaye d'être le plus présent possible. D'ailleurs, pour en profiter, sachez qu'on est les premiers à recruter. Si des gens se sentent la fibre pour nous aider, nous, on est les premiers à les recevoir avec, avec un grand enthousiasme et ils seront forcément les bienvenus.
Mmh, d'accord.
Est-ce que le Téléthon apporte à la recherche type sclérose en plaques ?
Alors, non, ce n'est pas forcément une maladie qui est reprise dans la liste des maladies rares, en fait, puisque... D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi traité médicalement. L'AFM Téléthon intervient effectivement dans un domaine de maladies rares telles que la myopathie, qui ne sont pas forcément des maladies hyper répandues. Donc à partir de là, non, la sclérose n'est pas reprise.
Donc les fonds sont utilisés uniquement pour la recherche ?
Alors, sont essentiellement utilisés pour la recherche et tout le fonctionnement qui va autour, puisqu'il faut savoir que l'AFM Téléthon, c'est 2000 salariés aussi, entre les laboratoires de recherche, bâtiments, entre... Aujourd'hui aussi, la création de médicaments, puisqu'on a aussi un laboratoire qui crée des médicaments. Donc vous voyez, voilà, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, une grande, grande majorité des fonds sont destinés à la recherche. Mais
et vous avez un ordre d'idée, combien ça rapporte le Téléthon
Oui, le Téléthon l'an dernier, c'est un peu plus de 96 millions d'euros sur le phénomène Téléthon, sur la période Téléthon. Et en fait, l'AFM, c'est un budget de 122 millions d'euros annuels.
Et ça suffit pour la recherche ?
Non.
Ou alors non, ça
non,
suffit
non,
pas.
Non, ça ne suffira jamais, puisqu'aujourd'hui, on est juste en capacité de pouvoir aider et de pouvoir développer, essayer de trouver des solutions pour à peine 5% des maladies. Quoi. Donc vous voyez, on est loin, 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 très très loin du compte utile pour aider à tous les niveaux.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi le Téléthon est important dans la recherche médicale ?
Alors, le Téléthon, c'est une association qui a été créée dans les années 60. C'est l'association, l'AFM, a été créée dans les années 60. C'est effectivement suite à une famille qui était concernée par la myopathie qui a créé cette association. Il y a toute une évolution qui s'est faite depuis maintenant quasiment 60 ans. Hein, donc voilà. Et aujourd'hui, pourquoi elle est importante ? Puisque tous ces traitements qui sont possibles pour les maladies rares ne sont issus quasiment que de la recherche de l'AFM.
D'accord.
Donc aujourd'hui, si l'AFM n'existait pas, toutes ces maladies seraient traitées. On ne dit pas qu'elles ne seraient pas traitées, on dit simplement qu'il n'y aurait peut-être aucune solution d'apporter. Aujourd'hui, vous avez des évolutions qui sont super importantes. On va vous parler de l'amyotrophie spinale, qui est une maladie qui aujourd'hui est détectée chez le nouveau-né depuis le 1er septembre seulement cette année. Et sans l'intervention de l'AFM, aujourd'hui, cette solution n'existerait pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir, parce qu'il y a un médicament en thérapie génique, qui est possible d'apporter, qu'on est possible d'apporter à quelqu'un qui est un nouveau-né et qui serait traité tout de suite avec une évolution, forcément, et voir. On ne parle pas de guérison, mais on parle d'une amélioration de ses conditions de vie qui sont démentielles. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a la maladie emblématique de l'AFM, qui est la myopathie de Duchenne, à aujourd'hui, des essais cliniques existent. Donc, vous voyez, ça avance. Il y a des choses qui avancent. Il y a des traitements qui commencent à sortir. De dire que tout est gagné, tout est réussi, non, ce n'est pas vrai, mais on est en phase de réussite.
D'accord.
Il y a quoi comme handicap ?
Alors, il y a beaucoup de maladies. La majorité des handicaps, ce sont des handicaps physiques. Ce sont aujourd'hui des gens qui, vous pouvez le voir, comme vous le voyez lors de l'émission qui est transmise sur France Télévisions, vous avez beaucoup de personnes qui sont en réduction de mobilité, qui sont en fauteuil roulant, qui ont des problèmes de respiration, de l'assistance respiratoire. Ce sont les phénomènes visuels. Après, il y a toute une série de maladies qui interviennent plus sur les membres inférieurs, d'autres sur les membres supérieurs, d'autres uniquement sur la partie, entre guillemets, développement musculaire et autres. Mais ce sont effectivement des dégradations de physiques qui sont importantes.
Alors moi, j'avais une question aussi, c'était est-ce que comment ça concerne vraiment que la recherche ou il y a aussi des aides qu'on peut... Par exemple, je sais que ma grand-mère, elle reprend les bouchons de bouteilles pour faire des fauteuils pour handicapés. Alors, je ne sais pas si le Téléthon, il fait ce genre de choses.
Alors, il y a des... Le Téléthon fait aussi d'autres... Enfin, quand on dit le Téléthon, donc on parle de l'AFM, hein, je résume quand même. Le Téléthon, c'est une appellation. L'association qui s'en occupe, c'est l'AFM Téléthon. Mais au sein de l'AFM, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font, y compris, par exemple, la récolte des piles usagées. Vous voyez, on a des contrats qui existent et des conventions qui existent où on récupère les piles usagées, par exemple, pour les fournir. Et quelque part... Une pile, c'est un don. Vous voyez ? Donc, voilà, ce sont des conventions qui sont passées avec des entreprises et autres et qui sont tout à fait qui sont mises en œuvre pour nous permettre d'augmenter les fonds. Il y a d'autres aides qui existent. Hein. Vous avez aussi des services régionaux, départementaux. Dans les services régionaux, il y a des services d'accompagnement pour les personnes en handicap, où on va vous aider à monter des dossiers vers la MDS, des choses comme ça, les maisons départementales de solidarité, pour aider à l'achat de fauteuils, voilà. Il y a des choses qui existent. En fait, on n'a pas que de la recherche. Il y a aussi de l'assistance vers les malades et les familles de malades.
Est-ce que cela touche une grande partie de la population ?
Alors, ça touche une partie de la population. Je n'ai pas forcément tous les chiffres, mais quand on parle de maladies rares, on ne parle pas forcément d'un grand nombre de personnes, mais il y a quand même énormément de cas qui sont recensés et qui seront encore recensés à l'avenir, puisque quand on parle de maladies génétiques, imaginez bien que les gènes se transmettent. Donc forcément, on ne résout pas tous les problèmes. Donc voilà. Donc effectivement, vous donner des chiffres précis, je ne pourrais pas vous les donner, mais du moins, sachez que oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, même si on parle de maladies rares.
Alors vous voyez, il y a énormément de questions. On va vous faire on va faire maintenant une petite pause musicale.
Ouais, morceau.
On va passer un morceau de l'œuvre de Thomas. Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce morceau que vous allez nous faire écouter ?
C'est un morceau qui s'appelle à l'origine Electro Serious Funk. Voilà, en fait, on pourrait l'appeler Tomber comme. Je suis jamais trop sûr sur mes titres, je galère toujours pour trouver des trucs. Donc, je vais rester bref, on va écouter Electro Serious Funk.
Merci Thomas. Thank you.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Alors, de retour pour l'interview du Téléthon par Michael. Michael, une petite question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour le Téléthon sur Boulogne-sur-Mer et les environs ?
Alors, sur Boulogne-sur-Mer et ses environs, donc, on a énormément d'animations. Parce que là, il faut le dire, il y a quand même une grande mobilisation de la part de toutes les associations, des personnes privées, également des commerces, ce qui nous a agréablement surpris cette année. Vous voyez, je pourrais vous donner un exemple. Sur le week-end du Téléthon, on a un commerce, un salon de coiffure sur la région boulonnaise, donc sur Vimereux, qui a décidé de faire don de son chiffre d'affaires de la journée pour le Téléthon. Donc en fait, une grosse organisation de sa part, et elle fait un abandon de recettes pour le Téléthon. Donc c'est quelque chose qui peut se faire, et c'est quelque chose quand même d'assez conséquent sur une animation commerciale, par exemple. On a aussi beaucoup d'associations qui vont, entre guillemets, œuvrer sur ce week-end. On va faire du concours de pêche, on va faire de l'animation MMO, qui est quand même un sport à la mode, hein, quand même. Voilà, et quand je dis à la mode, il ne faut pas croire que ça n'est que des combats, c'est aussi un sport, c'est un sport qui se prépare. Donc il y a de l'animation destinée aux femmes, donc on appellera ça le MMO Ladies, donc super sympa. Donc voilà, on a aussi, en dehors des animations sportives, de grandes disciplines qui se mobilisent, telles que les pompiers. Les pompiers qui font des animations sur 24 heures, voilà, et qui sont super sympas. On a aussi beaucoup d'associations sportives, etc., qui vont faire des tournois multisports. Une grosse mobilisation des lycées, lycée Mariette, lycée Branly. Donc, grosse mobilisation sur ces week-ends-là. Il faut savoir aussi que le Téléthon, ben, ça ne dure pas que les deux jours de Téléthon, donc ce n'est pas uniquement du 5 au 6 décembre. Ça a commencé en septembre et ça va se finir juste avant Noël, et voir, voilà. Donc des animations, on en a eu déjà au préalable, des animations super sympas. On a eu un salon du Lego là, qui a eu lieu donc, les week-ends du 8 et 9 novembre, donc, qui a mobilisé beaucoup de monde. Donc voilà, J'en ai tellement que c'est compliqué. On a des grosses associations sportives comme le SOMB qui se mobilise également, donc qui va faire un match Téléthon. Donc voilà, ça c'est super sympa aussi. On a des défis musculation, des concours de cartes. On a multitude d'activités et d'animations. Tout avec un esprit festif. Faut pas oublier que le Téléthon, c'est aussi une fête. Une fête autour de l'aide et de la générosité des gens. Mais c'est aussi une fête. Donc voilà, on va passer un mois et demi à travers les animations pour passer du bon temps.
Très bien, super.
Michel, vous avez une petite question ?
Oui. Attendez-vous des artistes et personnalités du spectacle ou du sport pour parrainer le Téléthon ?
Alors cette année, c'est bien que vous en parliez, parce qu'on a, tous les ans un parrain sur Boulogne. Et le parrain boulonnais cette année, ça sera Sonny Duflo, qui est un joueur de football
de l'USBCO,
donc qui est boulonnais, qui est natif de Boulogne et qui a accepté d'être le parrain du Téléthon pour 2025. Donc on est très heureux que ce soit lui, parce que c'est une personnalité locale et en plus très gentil, aimable, agréable. Donc voilà, ça tout s'allie à ce que ce soit la bonne personne pour représenter le Téléthon 2025 sur le Boulonnais.
D'accord, merci.
Et au niveau de l'hôpital ?
Alors, au niveau de l'hôpital, ça tombe bien que vous en parliez, parce qu'on a une super animation à l'hôpital qui va durer toute une semaine, où tout le personnel de l'hôpital se mobilise à travers, on va dire, un petit tournoi ou quelque part de rameurs, vélos et autres, qui est super sympa, qui est super. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ont envie d'y participer et de représenter un des services, parce que c'est un peu le principe.
Ouais, tout
le principe, c'est un petit challenge interservice, voilà. Et qui est super sympa, et qui va démarrer le 1er décembre,
voilà,
le 1er décembre jusqu'au 5,
exactement.
Et avec le bouquet final du 5, ce qu'on appelle les forêts de l'espoir, au départ de l'hôpital, pour aller rejoindre la mairie de Boulogne. Donc je vous invite à tous y participer. C'est un moment de regroupement, de réunion super sympa, qui est très amusant, qui est très rigolo, et on y passe du super bon temps. Et si vous avez une demi-heure à perdre, d'aller faire un petit peu de rameur, un petit peu de vélo, ils sont très heureux de vous accueillir.
C'est gentil de me tendre la perche parce que nous allons justement maintenant écouter l'interview que nous avons fait avec Stéphane Dourier à propos justement du Téléthon au sein de l'hôpital.
Voilà, on va écouter son interview. Est-ce que, Michael, vous avez quelque chose à rajouter
Alors, si je devais rajouter quelque chose, ben, tout simplement, je vous invite à bien regarder le planning des animations du Téléthon, à y participer et à venir nous y rejoindre. On y passera un super moment.
Eh bien, merci beaucoup pour votre investissement.
Merci à vous.
Après la chronique du Téléthon, nous allons enchaîner avec Lucas qui va nous parler des animaux en danger. C'est bien ça, Lucas ?
Oui, c'est ça.
Alors, moi, il y a une petite question qui me taraude là. Pourquoi le renard est-il en voie de disparition ?
En France, le renard est une espèce de gibier et perdu à ce titre être chassé durant les périodes d'ouverture de la chasse. C'est une espèce carnivore fortement chassée, environ 0,9 renards prélevés. Par ailleurs, le renard fait partie de cette espèce de liste des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasion des dégâts et peut à ce titre faire objet de mesures d'administratifs de réguliers. Il est possible de faire appel à des piégeurs ou des chasseurs agréés par les préfectures pour résoudre à cette situation.
Ouais, c'est s'il y en a trop, en fait, ils réduisent.
Exactement, c'est ça. Ouais. Tu veux aussi nous parler d'un animal qui a complètement disparu, c'est lequel ?
Oui, je vais vous parler du loup terrible qui, malheureusement, est éteint depuis 10 000 ans, alors qu'il a vécu en Amérique du Nord et aussi en Sibérie. Mais ils sont morts car ils n'arrivaient pas à s'intégrer à l'environnement, surtout au froid et aux bactéries.
Ok. Et qu'est-ce qu'il y en est pour le guépard ?
Le guépard est menacé car les fermiers ont peur pour leur bétail. Puis ils sont tués. Et surtout, il y a quelques animaux qui le mangent aussi. Le lion et les lions qui ont peu d'endurance.
D'accord. Et justement, tu nous parlais des lions. Qu'est-ce que tu peux dire de plus ?
Oui, alors les lions, comme les tigres, sont menacés pour leur médecine chinoise. Mais sont différents car le lion, c'est ses os qui intéressent sur la médecine. Et surtout, les tigres, ce sont les organes. Mais malheureusement, il y a des tigres qui sont disparus, comme le tigre de Bali, aussi le tigre de la mer Compipine, puis enfin le tigre de Java. Mais le lion, comme le tigre, leur grande menace, pardon, et surtout le braconnage qui les tue pour leur trophée. Il a aussi le réchauffement climatique à cause de l'humain, donc ils meurent de faim et de soif.
Eh ben, merci pour cette chronique, Lucas. Et puis maintenant, nous allons passer à totalement autre chose. On oublie les animaux. Et maintenant, c'est Virginie qui va nous parler de la fibromyalgie. C'est bien ça, Virginie ?
Oui.
Alors, Virginie, vous allez nous parler d'une association. En quoi consiste cet asso ?
Cet asso consiste à briser l'isolement et également à informer le grand public, ainsi à la soutenir.
Ok. C'est quoi la fibromyalgie, exactement ?
C'est une maladie invisible où il se présente beaucoup de douleurs perturbant le sommeil.
D'accord. Et les douleurs se situent à quel endroit ?
Les douleurs se situent dans tout le corps. Il se présente 18 points sensibles. L'omoplate, l'arrière, le genou, la colonne vertébrale. Et au niveau du cou.
Ok. D'accord. Est-ce que c'est très douloureux ?
Oui, nous souffrons beaucoup.
Nous sommes très épuisés, mais c'est une douleur lancinante.
Ah, c'est une douleur lancinante, c'est ça?
Ouais, oui, c'est ça.
C'est vrai que c'est fatigant, ça, en effet.
Et comment on l'attrape, cette maladie?
En fait, on l'attrape dès l'âge de 7 ou 8 ans.
Ok. Et est-ce héréditaire?
Non, je n'ai pas héréditaire.
Ok. Quel traitement approprié peut-il soulager les douleurs?
Il n'y a malheureusement pas de traitement venant calmer la douleur. Mais pour l'amélioration, conseiller d'entreprendre la sophrologie, le magnétiseur, et tout ce qui se rapporte à la médecine douce, ainsi que la médecine parallèle.
D'accord. Ouais, je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des antalgiques.
Il y a des antalgiques. Puis de mémoire, il y a aussi un antidépresseur quand même qui peut être donné et qui agit. Alors, bien sûr, ça ne règle peut-être pas tous les problèmes. Hein, mais il y a aussi... pour moi, il y a un antidep qui peut être donné. Plus lequel, par contre.
Mais la psychothérapie peut aussi
aider. Après, c'est sûr que la souffrance, ça peut aider. Hein,
oui.
Pas de souci. Mais
tout à fait.
Voilà, associé à d'autres choses.
Exactement. Ouais. Se présente-t-il beaucoup de cas?
Oui, il se présente au moins 1 million de Français étant touchés par cette maladie suivante, 5% de la population.
Ok, merci bien Virginie pour cette intervention.
On va écouter une pause musicale en rapport avec la chronique que nous a expliqué tout à l'heure Lucas. Donc le morceau, c'est un morceau de Poho, Le lion est mort ce soir.
Oui, 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 oui.
Jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir.
Yeah.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Rebonjour à tous. Nous allons écouter Michel maintenant qui va nous parler de Jimmy Gressier.
Oui. Je pense que la majorité des personnes à cette table ont entendu parler de Jimmy Gressier. Alors, Jimmy Gressier a vu le jour à Boulogne-sur-Mer le 4 mai 1997, dans le même quartier qu'un certain Franck Ribéry. D'ailleurs, Jimmy a pris ce dernier comme modèle, d'autant plus qu'il s'intéresse en premier lieu au football, sport pour lequel il est très doué. Mais certains coachs décèlent en lui un fort potentiel pour les crosses scolaires. Jimmy accepte alors de se lancer dans l'aventure de l'athlétisme et démontre que les entraîneurs ne se sont pas trompés. Il fait preuve de belles qualités de vitesse et d'endurance et une force mentale exceptionnelle. Alors c'est un fils d'ouvrier qui doit faire face à de nombreux aléas de la vie, ce qui lui procure une volonté de ne rien lâcher et d'atteindre ses rêves à la force de ses jambes. C'est un bosseur qui est désireux de donner le meilleur de lui-même pour atteindre le top niveau mondial. Qu'il pleuve, qu'il vente, il ne se pose pas la question, il va s'entraîner. Il a côtoyé pendant ses stages sportifs des athlètes de tous horizons avec des modes d'entraînement différents, notamment les coureurs des hauts plateaux, qui lui ont laissé un souvenir impérissable. Malgré tout, il ne cultive pas un complexe d'infériorité et travaille d'arrache-pied pour battre ceux qui constituent le top niveau mondial sur sa discipline, 5000 et 10 000 mètres. Il a participé aux JO de Paris en 2024, mais n'a pas atteint le podium avec des places honorables. Pour mémoire, le natif de Boulogne-sur-Mer est actuel détenteur du record de France du 5000 mètres en 12 minutes 51 secondes 59 centièmes et du 10 000 mètres en 26 minutes 58 secondes et 92 centièmes. Il détient surtout le record d'Europe du 5 km sur route en 12 minutes 57 et celui du 5000 mètres en salle en 12 minutes 54 seconde 92 centièmes. Il est triple champion de France espoir de cross en individuel en 2017, 2018 et 2019. Il remporte la Ligue de Diamant en meeting sur 3000 mètres en 2025 et devient la même année champion d'Europe de semi-marathon 21 km. Mais cerise sur le gâteau, lors des championnats du monde d'athlétisme à Tokyo cette année 2025, le 14 septembre, il signe l'un des plus grands exploits de l'athlétisme français en devenant champion du monde du 10 000 mètres, en devançant au finish les meilleurs coureurs de la planète. Il ne se contente pas de ce titre suprême, car il s'aligne sur le 5 000 mètres, se qualifie pour la finale, au cours de laquelle il obtient la médaille de bronze malgré la fatigue emmagasinée. Cela lui vaut d'être invité dans de nombreuses émissions de télévision et il devient citoyen d'honneur de la ville de Boulogne-sur-Mer. Superbe récompense. Merci Jimmy, tu nous as fait vibrer et fait honneur à notre ville et l'on a pu constater que tu n'as pas pris pour autant la grosse tête. Je n'ai pas cité les nombreux titres que Jimmy détient en cross et 1500 mètres, 3000 mètres en salle et 5000 et 10 000 mètres, tant en espoir qu'en senior. Il me faudrait beaucoup de temps pour tous les citer. Bonne nouvelle, il revient s'entraîner à Boulogne-sur-Mer pour se rapprocher des siens et se forger un mental d'acier.
Superbe rubrique, Michel. On ouais. sent qu'il y a du cœur là-dedans. Hein.
Ouais,
il y a de la fierté.
Quand j'ai assisté aux 10 000 mètres à la télé, j'ai dit « il va le faire, il va le faire ». Et effectivement, il a doublé sur la ligne les deux concurrents qui étaient devant lui. Et
Et ça m'a fait procurer, ça m'a procuré un immense plaisir, puisque c'est rare qu'on obtienne des médailles en athlétisme. C'est pas courant.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que vous n'êtes pas le seul à avoir vibré comme ça. Je crois que tout Boulogne-sur-Mer et les alentours.
Ah oui.
Et on peut même parler des Hauts-de-France. Hein.
Ah oui. Même la France en entier, un champion du monde hein, 10 000, ouais. du 10 000 mètres, c'est très rare.
Hein. Bien sûr.
Un Européen en plus.
Et un petit gars du plateau.
Ah, un petit gars du coin.
J'avais une question.
Allez-y.
Ouais, donc Michel, je voulais te poser une question.
Oui.
À toi ou celui qui sait répondre. Quand les coureurs font un 5 000 ou 10 000 mètres, enfin bref, une course comme ça, qu'ils arrivent sur la ligne d'arrivée, comment on fait pour compter les centièmes et tout, pour être aussi précis?
Bon, y a des chronomètres très perfectionnés. Hein.
Oui, des chronomètres électroniques.
Électroniques, ouais. Oui, tout à fait, oui.
Ah, c'est ouais, mais je veux dire, donc du coup, ça se fait manuellement, on éteint le chronomètre.
Par caméra, c'est une caméra, je pense. Ouais,
En fait, c'est comme si vous aviez vous avez un faisceau laser qui en fait,
est invisible. Ouais.
Lorsque, c'est pour ça que vous voyez souvent les coureurs plonger la tête en avant, parce que pour pouvoir avoir une petite avance de quelques centièmes,
oui, c'est ça.
Juste la tête peut suffire à départager. Un centième de seconde peut départager, par exemple, le premier du deuxième.
D'accord.
En fait, il coupe un fil invisible, que c'est un faisceau laser, tout bêtement, qui départage en fait le premier, le deuxième et le troisième.
Oui, c'est ça.
Ça marche, et le fil invisible est plutôt au niveau de la tête, du coup.
Bah, ça dépend. Ça dépend ce que vous mettez en premier.
Il est au niveau de la ligne.
Oui, en fait, c'est pas plaque, je vais vous dire, c'est pas un faisceau, c'est plus un rideau, si vous préférez.
Ouais, voilà. D'accord.
Hein, okay. C'est plus, schématiquement, c'est plus symbolique. On va dire un rideau.
Il n'y a pas de souci.
Mais c'est une bonne question, parce que c'est vrai que j'en
ai. Oui, tout à fait.
Merci, Luc, pour ces explications. Et,
Michel, il y a sport-études pour l'athlétisme aussi, comme
le foot. Oui.
Donc, ils partent. Ils font sport études où alors à Paris?
Oh, ça, souvent à Paris. Oui.
Il y en a à Lille aussi.
À Lille aussi?
Oui, à Lille aussi. Oui.
Donc ils font leurs études et puis ils font de l'athlétisme.
Ils font de l'athlétisme en même temps, oui. C'est comme le sport études de foot, hein. C'est pareil. Hein. C'est la même.
Et est-ce qu'ils sont payés pendant leurs études? Ils sont payés. Après, quand ils s'entraînent, ils sont payés. Ils ont des subventions pour...
Oui, c'est plus des subventions que
c'est
des...
Ce n'est pas des subventions, ce sont des sponsors. Ouais. C'est plus des sponsors. Après, ils sont payés aussi lorsqu'ils font des courses. Il y a des primes. Des primes à chaque course en fonction de si on est premier, deuxième, troisième. D'ailleurs, Michel, moi, j'en ai jamais eu de prime. Parce que même quand vous courez en tant qu'amateur... Quand vous faites des courses...
Oui, ça m'est arrivé d'en avoir.
Voilà, lorsque vous finissez premier, deuxième, troisième, etc., de différentes catégories, vous avez alors soit des cadeaux, soit des bons d'achat, soit un petit peu d'argent. En fonction de la localité où vous faites la course, les primes peuvent varier de différentes sommes.
Et le ministère des Sports, il leur verse des sous pour... Parce qu'ils sont sportifs de haut niveau et puis qu'ils représentent la France.
Alors ça, je ne sais pas, moi. Ça, je ne peux pas vous dire.
Ça peut des fois être une...
Je pense que c'est la fédération...
Ça peut être une chronique, hein, des fois, de se dire, on va aller regarder comment un
C'est comment sûr, un sûrement gagne. La fédération française d'athlétisme.
Ce serait à creuser, ça.
C'est comme le foot, hein. Les primes qu'ils gagnent en équipe nationale, c'est la Fédération française de foot qui les paye, hein, qui donne les primes.
Et moi, je vous invite, Jean-Claude ou Michel, à creuser ça et à rechercher, à nous faire peut-être une petite chronique là-dessus.
Oui,
bien sûr. Ça peut être intéressant.
Oui, tout à fait.
Et Lucas avait une petite question également à poser.
Il avait quel âge quand il a commencé,
Michel?
Jimmy Gressier,
ouais.
Ah ben il a commencé, il avait une quinzaine d'années, hein, pas plus. Hein. Il a commencé à faire les crosses scolaires à l'école.
En sixième, généralement, on fait le cross.
En sixième, à partir de sixième, on fait les crosses scolaires. Et c'est là qu'il a été
repéré un petit peu.
Repéré, on va
dire comme ça. Ouais. Ok, très bien.
Ok, on écoute Luc maintenant pour quelques infos diverses pour alors terminer notre émission.
Voilà, nous arrivons à la période de Noël, donc je vais vous parler un petit peu des différents marchés de Noël qui sont sur la côte d'Opale. Donc il y a Virginie qui m'informe que le Bel Envol organise un marché de Noël le 5 décembre dans leurs locaux, c'est bien ça ?
Voilà, oui.
Voilà. Après, nous avons le 6 décembre Saint-Nicolas qui va traverser la ville de Boulogne-sur-Mer sur son char accompagné d'autres festivités. Le 6 et 7 décembre, Marquise et Lick organisent leur marché de Noël. Lick a aussi un marché artisanal. Le 12, 13 et 14 décembre, Boulogne-sur-Mer fait son marché de Noël sur le parking de l'évêché en vieille ville, ainsi que Outreau. Voilà, c'est tout pour les infos diverses.
Il y a aussi le spectacle salle du Phénix à Outreau aussi.
Alors, le spectacle de Noël ?
Oui.
D'accord.
C'est Le Père Noël est fou.
D'accord. Et c'est quelle date ?
Je ne me rappelle plus les dates, mais...
C'est au mois de décembre.
Oui, voilà.
Ok. Ben, merci bien.
Merci Lucas, merci Luc.
Eh ben, merci à tous. Ouais. Norine, cette première diffusion, cette première enregistrement, ça vous va ?
Oui, nickel, ouais, nickel.
Vous revenez la prochaine fois ?
Ouais.
Ah ben parfait.
On va préciser également le marché de Noël du centre hospitalier.
Oui.
Hein, on l'avait pas noté, mais...
Exact.
Donc du lundi 8 au jeudi 11 décembre 2025. Donc d'accord. C'est marché de Noël qui se passe dans le hall de l'hôpital. Je crois qu'il y a même des trucs en maison de retraite, il me semble. Si
alors oui, et petite précision d'ailleurs, le CATTP voilà. Sera présent au marché de Noël de l'hôpital, ainsi qu'au niveau des maisons de retraite.
Voilà, très bien.
On peut peut-être donner les dates, Cédric, pour les prochaines...
Pour la prochaine émission, voilà. Qui sera donc en fin d'année, sera la dernière... La dernière de l'année. Donc la prochaine émission aura lieu le samedi 31 décembre à 13h et le dimanche 1er janvier à 15h.
Eh bien, au revoir à tout le monde et puis à la prochaine.
À la prochaine. Merci, et puis bonne écoute pour cette dernière pause musicale.
Oui, vous allez écouter Richard Anthony avec voilà. J'entends siffler le train.
Les boulons, les boulons, les boulons. L'émission des boulonnais.
J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi, c'est à peine. C'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Thank you.
pensait qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini et j'entends siffler le train et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train.